La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de la Compagnie des auteurs consacrée à une grande figure de la littérature sud-américaine, l'écrivain chilien Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, fauché en pleine maturité en 2003 et qui commence déjà à prétendre au titre de classique moderne. Il est adapté au théâtre par divers metteurs en scène, des colloques lui sont consacrés, il fait même l'objet d'un culte de la part d'inconditionnels de plus en plus nombreux. Et ce culte, on va le voir, semble avoir quelques raisons d'être. Justement, jeudi, nous recevrons des héritiers de Bolaño, Alban Lefranc, qui l'a adapté au théâtre, et Edwige Jeanmar, qui en a fait un fascinant fantôme dans son roman Blanes, du nom de la ville espagnole où il a vécu. Mercredi, nous serons en compagnie de Florence Olivier. Elle nous dira pourquoi Bolaño, c'est avant tout de la poésie. Nous parlerons aussi de son œuvre monstre, 2666. Demain, l'écrivain Bernardo Toro nous fera le plaisir de sa visite. Chilien comme Bolaño, exilé comme lui, il nous parlera de leur pays et bien sûr de la dictature de Pinochet si présente, notamment dans son roman Nocturne du Chili. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme tous les lundis, une émission introductive. Je reçois celui qui a traduit toute l'œuvre de Bolaño en français, ce qui n'est pas une mince affaire, étant donné la taille de l'œuvre en question et le peu de conseils que lui a délivré son auteur Roberto Amutio et dans ce studio. Et puis en seconde partie, il sera rejoint par Raphaël Estève, professeur de littérature à l'université de Bordeaux 3 et co-organisateur, c'était il y a quelques années déjà, d'un colloque sur l'écrivain chilien. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs.
Lisez Bolaño. Bon, malheureux, il est mort à l'âge de 50 ans. Il attendait un foie, une greffe qui n'est. Bon, le foie, on ne l'a jamais trouvé et il est mort. Bon, et si vous voulez, il y a l'ombre portée de cette mort possible sur toute son œuvre et c'est un écrivain extraordinaire. Et j'ai publié avec enthousiasme. Sept livres de lui avant de publier ses fameux Détectives Sauvages, qui était son grand roman, et je publierai dans un an, deux ans, trois ans, je sais pas, son roman posthume qui s'appelle 2066, qui fait plus de 1000 pages. Bah, vous en lisez 10 pages et vous comprenez que c'est un grand écrivain.
Bonjour Robert Amutio.
Bonjour.
Alors vous avez reconnu, j'imagine, une voix que vous connaissez bien. C'est la voix de l'éditeur français de Bolaño, Christian Bourgois, qui est par la force des choses également votre éditeur, puisque vous êtes, je le disais, le traducteur attitré de Roberto Bolaño. Sa langue a un peu fourché, comme la mienne d'ailleurs, je vous ai appelé Roberto Amutio, mais vous êtes Robert Amutio. Et lui, il a dit 2066 au lieu de 2666.
Oui, c'est une erreur excusable qui est très souvent commise. Alors je voulais juste corriger ce que vous venez de dire un peu auparavant. Je n'ai pas traduit totalement toute l'œuvre. Il y a un texte qui, moi, il m'aurait plu de traduire. Et c'est Amuleto, qui était traduit par un couple de Québécois aux éditions Les Allusifs. C'est le seul qui m'est échappé, si je peux dire.
Donc vous avez quasiment tout traduit chez Christian Bourgois. Ça fait tout de même une quinzaine de volumes.
Oui, environ une quinzaine de volumes. C'est pas une mince affaire, évidemment. Et puis je suis très très reconnaissant à Christian et Dominique Bourgois parce que tout à fait quand j'ai présenté Bolaño aux éditeurs, j'ai mis très longtemps à trouver un éditeur qui qui accepte même de me répondre. Et Christian Bourgois m'a répondu une lettre très, très courtoise en disant qu'il allait réfléchir. Et ensuite, nous avons commencé par traduire Nocturne du Chili et Étoile distante. Et ensuite, alors que bon, voilà, moi c'était ce que j'avais présenté, il a eu l'élégance de me laisser traduire le reste. Et Dominique Bourgois continue cette lancée.
Et vous avez pensé que c'était ces deux titres-là qui pouvaient le plus facilement plaire au public français?
Alors, la vérité dans le détail, je pensais peut-être à tort parce que j'ai des goûts toujours peut-être un peu pas forcément je suis pas sensible peut-être au lecteur lambda quoi. J'avais pensé que Littérature nazie en Amérique, qui était le livre qui précédait Étoile distante, était aussi une bonne introduction.
Le titre est tellement choquant qu'il peut donner envie de le feuilleter,
oui,
en tout cas.
Alors, mais bon, c'est un livre qui est redevable beaucoup, hein, bon, évidemment, à Borges, à un autre écrivain argentin assez étrange qui écrit en italien, qui s'appelle Wilcock. Et donc peut-être que il était peut-être préférable de le présenter une fois qu'on était introduit dans l'univers de Bolaño. Et sans doute Étoile distante, je persiste, hein, c'est une bonne porte d'entrée. Et évidemment Nocturne du Chili.
En tout cas, c'est avec ces deux titres qu'a commencé votre aventure avec Roberto Bolaño, une aventure tout de même importante, quelques milliers de pages. Les Détectives Sauvages, c'est un très gros livre. 2666, n'en parlons pas. 1400 pages à peu près en folio. Certains ouvrages, en revanche, sont très courts. Mais vous n'avez pas eu d'aide, y compris avant 2003, avant la mort de Roberto Bolaño. Vous n'avez pas eu d'aide de l'auteur. Il disait à chacun son travail.
Oui. Alors, on va nuancer un petit peu. Chacun son travail, c'est-à-dire si je lui posais une question, certaines questions, il me disait bon, ça, tu fais comme tu l'entends, c'est toi. Cependant, il répondait volontiers et contrairement à ce qu'il disait, il prétendait ne pas lire les traductions. En tout cas, les traductions en français, puisque c'était quelqu'un qui lisait assez bien le français.
Et, qui avait vécu en France.
Il a vécu en France, et il lisait beaucoup. C'était quelqu'un qui connaissait très bien la poésie française. Et il lisait donc le français.
La poésie contemporaine française.
La poésie contemporaine. Mais bon, ses intérêts pour la poésie allaient des troubadours jusqu'à de la déception pure, manifeste froid, avec Voltaire, Bruyère, enfin bon, on en avait parlé. Donc, il avait quand même parcouru, l'Étoile distante, et parce que je lui ai envoyé le fichier hein, avant de donner l'imprimatur, et il m'avait signalé, il y avait au moins une petite erreur qu'il considérait comme une erreur, et une interprétation que j'avais faite et qui lui semblait fausse, ou en tout cas qu'il demandait à revoir. Et donc, il m'aidait pas, c'est-à-dire c'était pas quelqu'un qui répondait, mais il répondait facilement. Hein, il répondait facilement.
Mais du coup, c'était quelqu'un que vous qualifieriez de distant, ou c'est parce qu'il vous laissait justement libre et parce qu'il valorisait cette idée de la liberté du créateur qui est aussi le traducteur.
Oui, il faisait. Je crois qu'il a fait confiance au traducteur qu'il a rencontré. Hein. Un signe, c'est que il a son éditeur allemand, son premier éditeur allemand, il en parle entre parenthèses, et il a dédié une nouvelle dans Le Gaucho à deux de ses traducteurs.
Entre parenthèses, qui est un très beau recueil d'ailleurs de ces textes qu'on peut qualifier peut-être de journalistiques. Alors, parlons un peu quand même de la vie de Roberto Bolaño, qui est né au Chili en 1953. Contexte évidemment important.
Oui. Alors, il est né à Santiago, mais il n'a pas vécu à Santiago. Hein. Il a vécu avec ses parents dans le sud du Chili, dans des petites villes. Hein. Sa mère était institutrice, maîtresse des écoles, comme on dirait. Maintenant, et son père était un chauffeur routier et un boxeur professionnel. Et il semble que le couple s'entendait pas très bien, en fait. Hein. Et il a une jeune sœur qui s'appelle Salomé. Et en fait, la mère de Bolaño, qui avait été au Mexique pour des raisons de travail, a convaincu la famille de se déplacer à Mexico, alors que Bolaño avait une quinzaine d'années.
Voilà, il commence alors cette vie à l'étranger, le Mexique, pendant ses années de jeunesse, jusqu'en 73,
oui. Ça oui. Alors, bien qu'il ait quitté le Chili tôt, il a toujours, hein, et Nocturne du Chili est une preuve, hein, c'est quelqu'un qui a toujours pensé au Chili, hein, même s'il ne se disait pas spécialement chilien, mais alors sa formation intellectuelle, c'est évidemment le Mexique. C'est là où il fait les grandes rencontres de sa vie intellectuelle, amoureuse, hein, y compris politique, sans doute aussi, puisque en 73, c'est Salvador Allende qui est au pouvoir au Chili, et Bolaño, qui est un jeune homme de gauche, et même d'extrême gauche, décide d'aller...
Donc il rentre à la maison.
Il rentre à la maison, mais en laissant ses parents au Mexique, et il voyage par terre. Hein, c'est-à-dire, il fait un très long périple. Il arrive peu de temps avant le coup d'État. Et bon, il le raconte dans une de ses nouvelles, il s'appelle Détective, il se fait arrêter parce que c'est un jeune homme avec des cheveux longs et qui parle avec un accent qui n'est pas l'accent chilien.
Mais alors là, ce qui est amusant, si on peut dire, c'est qu'il se fait arrêter par un ex-camarade d'école. Donc ça, qui du coup va faire qu'il ne va pas rester dans les prisons de Pinochet comme beaucoup d'opposants. Voilà. Donc là, sa vie s'est jouée à quasiment à rien. C'est-à-dire que lui ne va pas subir véritablement le régime comme beaucoup de ses compatriotes. Oui. Et pourtant, il va beaucoup parler dans son œuvre du régime de Pinochet.
Oui, bien sûr. Il va. Alors, c'est une chance, hein, vraiment. Qu'il ait été arrêté, qu'il ait été reconnu par ses anciens camarades, qui avaient gardé la sympathie pour lui, et au point de pouvoir le libérer. Et bien sûr, il ne va pas rester au Chili, et il repart en Saint-Servais, et il retraverse toute l'Amérique, avec sans doute un arrêt, bien que on discute, un arrêt au San Salvador.
Alors, il retourne donc au Mexique, Robert Amucho, et là, il va prendre part à la vie intellectuelle locale, et il va fonder ce mouvement, le mouvement de l'infra-réalisme. Qu'est-ce que c'est, Robert Amucho?
Alors, c'est évidemment calqué sur le français surréalisme. Le terme d'infraréalisme a été déjà employé par Roberto Mata, un peintre chilien, et c'était un mouvement, et il était le seul membre. Donc je ne sais pas si à cette époque-là, les infraréalistes connaissaient l'existence de ce mouvement. Alors l'infraréalisme, ça... Pour situer ça rapidement, ça ressemble plutôt à un mouvement dada, mmh. Hein, c'est-à-dire un mouvement iconoclaste et qui s'en prend principalement à toutes les figures officielles de l'intelligentsia mexicaine, hein, et dont un des passe-temps et une des terreurs de l'établissement était de venir troubler chaque fois qu'il y avait une présentation de livres ou de lecture, de venir semer le désordre. Dans la conférence ou les présentations.
Mais c'est un vrai mouvement ou alors c'est des étudiants qui s'amusent?
C'est...
Il y en a qui sont très jeunes, il y en a qui ont 16-17
ans. Oui, quelqu'un comme Bruno Montané, qui est vraiment un autre Chilien d'ailleurs, très jeune. Alors c'est difficile à dire. C'est une poignée de... d'étudiants ou de gens qui sont des marginaux et qui vivent sans doute d'expédients et qui n'ont pas, voilà, et qui n'ont pas de perspective de d'arriver dans le système. Hein. On est plutôt dans un mouvement pas d'insurrection, de subversion de ce qui est reconnu comme important. Et en particulier la tête de Turc, c'était évidemment Octavio Paz, qui était une figure officielle de la poésie mexicaine.
Alors on va continuer de parler avec vous, Robert Amutio, de Roberto Bolaño et de sa biographie, mais je voudrais vous faire écouter d'abord un petit extrait d'une interview avec Javier Cercas.
Lui était essentiellement un écrivain. Je veux dire, un écrivain absolu. Il vivait pour écrire, quand je l'ai connu. Très sérieux. Toute sa vie était la littérature. Il disait qu'il était un kamikaze. Il faisait tout pour la littérature. Et il l'a fait, effectivement. Le moment essentiel de sa vie, c'est quand il a découvert qu'il était malade. Avant, il avait écrit un peu, mais bon, très bien. Des livres qui ne sont pas grand-chose. Bien, c'est bien, mais c'est pas le grand écrivain d'après. Et à un certain moment, on l'a dit qu'il était malade. Il a pensé mourir. Il est devenu un écrivain. Alors c'était la lutte contre la mort, je crois. Et alors il a écrit très rapidement tous ses livres. Et c'est ça magnifique. Il a sacrifié tout à la littérature. Pour lui, la littérature, c'était tout. Et sa famille.
Voilà l'écrivain espagnol Javier Cercas, interrogé par Céline Duchesnay en 2010, qui évoque Roberto Bolaño et qu'il évoque évidemment à l'aune de sa maladie, qui va rétrospectivement nous faire relire entièrement la carrière de cet écrivain. Alors on l'a quitté à 20 ans, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe entre 20 ans et les 50 ans qui malheureusement le voient disparaître. Mais est-ce que vous diriez, comme Javier Cercas, que la maladie a eu un effet sur son écriture, sur le fait qu'il est devenu un grand écrivain?
Oui, alors il a appris qu'il était malade en 92, c'est-à-dire alors que son fils aîné avait 2 ans. Alors, bon, bien sûr, le fait d'apprendre qu'on a une maladie grave pèse sur n'importe quel être humain et sur Bolaño aussi. En revanche, je suis pas sûr qu'il ait écrit sous une espèce de dictée de la mort ou de la proximité de la mort. Hein. Moi, alors, je saute encore pas mal d'années. Quand je l'ai vu, c'était en avril 2003. Bien sûr, il se savait malade, gravement malade. Hein,
il parlait. Sa dernière année.
Ouais, c'était sa dernière année. Moi, je l'ai vu quelques semaines avant sa mort. Moi, je devais aller le voir à Blanes pour parler justement de traduction. Et c'était quelqu'un qui se sentait malade, qui évidemment pensait, par exemple, qui nous avons parlé de 2666 et de la pertinence de la publication de cette œuvre en divers tomes ou un seul tome. Bon.
Et finalement, on sait que lui souhaitait que, ouais, parce que c'est un très gros roman avec 5 parties, il souhaitait que ce soit édité en 5 fois, et finalement, le volume est paru en une seule fois. Oui. C'est peut-être pas très important, au fond.
Oui, mais alors, cette division, il l'expliquait, c'était pour... donc là, il avait quand même la perception qu'il était dans un danger quand même très important. Cette division, cette parution, était liée au fait qu'il pensait que il pourrait pendant 5 ans donc assurer une espèce de revenu à sa famille. Bon, ça prouvait au moins quelque chose de ce côté-là. Mais lui, comme individu, il était, c'était quelqu'un d'extrêmement vital. Il était plein d'énergie. C'était pas quelqu'un qui se sentait abattu. C'était pas quelqu'un qui avançait vers la mort, le dos courbé. Hein. C'était quelqu'un qui faisait face et qui pensait que il allait pouvoir terminer 2666 et toutes les autres œuvres qu'il projetait, puisqu'il avait. Il m'a parlé de titres qu'il avait dans sa tête, qu'il écrirait plus tard. C'était quelqu'un qui était pas du tout tout dans l'attente ou la disparition, du tout, hein, du tout.
Alors Javier Cercas nous avait fait faire un détour par la fin de sa vie. Il faut tout de même expliquer pourquoi le Chilien vivant au Mexique, Roberto Bolaño, décide de quitter assez jeune, donc dans sa vingtaine, l'Amérique latine, pour partir en Espagne, où au fond, rien ne l'attend.
Alors, en fait, c'est une affaire... Il y a sans doute plusieurs raisons. Il y a celle qui est la plus connue et celle qui correspond un peu au personnage, c'est une déception amoureuse qui le fait quitter le Mexique, mais alors que sa mère et sa sœur sont déjà à Barcelone. Sa destination première, c'était la Suède. Mais sa mère étant malade, finalement, il décide d'aller à Barcelone, où finalement... Il s'installe et où il est rejoint par son ami Bruno Montaner, qui était aussi un infraréaliste. Et c'est là qu'il fait sa vie à Barcelone, à Gérone, puis ensuite à une petite ville
de Blanes. Alors une vie tout à fait modeste, hein, des petits boulots. On a beaucoup insisté sur ce côté déjà un peu mythique, hein, de la vie de Roberto Bolaño, puisque il est gardien de camping. À un moment donné, il disait qu'il aimait bien ça. Il disait qu'il se sentait d'ailleurs fier dans ce métier parce qu'il empêchait les gens apparemment de se disputer. Apparemment, il a même empêché un lynchage une fois. Il a été aussi parmi tous ces petits boulots, Robert Amutio, vendeur de bijoux de fantaisie.
Oui, il avait sa mère avait monté un petit commerce et donc il travaillait dans cette boutique le jour et la nuit. Et ce que disait Cercas est sûrement vrai. Et la nuit, il écrivait. Hein, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'écrire, hein, de la poésie du théâtre qu'il a détruit. De la poésie, et ensuite, à partir du moment où sa famille s'est constituée, des romans ou des récits. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu de manière très modeste, en tirant le diable par la queue.
Mais qui ne vivait que de littérature.
Alors, il a même fait, ça l'a rendu aussi un peu légendaire, on peut dire ça comme ça, il présentait ses œuvres à des concours littéraires, et il en a remporté un certain nombre, parfois pas toujours dans la première place, mais ce qui faisait que ça lui assurait un certain revenu, et en même temps, il présentait la même œuvre sous des titres différents, différents concours, enfin bon, il y a un titre très célèbre de ses nouvelles qui s'appelle Saint-Cini, qui fait allusion à cette recherche.
Alors quand je dis qu'il ne vivait que de littérature, c'était pas financièrement, oui, mais c'était mais, voilà. Qu'il l'avait, tout comme en Kafka d'ailleurs qu'il cite.
En tout cas, il a essayé. Il a essayé de vivre de sa littérature. Hein.
Oui. Mais il était plus heureux en lisant que finalement en faisant n'importe quoi d'autre. Et d'ailleurs, y compris plus heureux en lisant qu'en écrivant, Robert Amutio.
Oui, c'est... Bon. C'était un lecteur... incroyable, puisqu'il avait des connaissances littéraires un peu dans tous les domaines et assez approfondies. Et on faisait allusion tout à l'heure, la poésie de troubadour l'intéressait, la poésie contemporaine française intéressait, la poésie nord-américaine n'avait pas de secret, il s'intéressait à la poésie grecque ancienne, enfin bon, c'était quelqu'un qui avait, moi je le crois volontiers, hein, il était sans doute plus heureux en lisant, hein.
Oui.
Alors on dirait Robert Borges, quoi, il était plus, il avait plus, comment on dit Borges, je crois quelque chose comme qu'il avait plus de considérer qu'il était plus heureux de lire des livres que de les avoir écrits. Quoi.
Donc, Robert Amutio, on vient de parler en quelques mots de la biographie de Bolaño, et on sait que lui-même a pratiqué ce genre de narration dans ses romans, qu'on pourrait qualifier de fiction biographique, puisque lui-même, il est présent de manière déguisée, non seulement dans plusieurs de ses livres, mais aussi dans le livre des autres, certains autres.
Oui. Alors dans ces livres il apparaît sous le pseudonyme de Bélano, qui est assez transparent, ou de B, une seule lettre. Alors, moi, dans le livre de Cercas, justement, Soldat de Salamine, il apparaît comme un personnage écrivain qui va permettre au narrateur de résoudre un certain nombre de problèmes, et en particulier grâce à son expérience justement de gardien de camping.
Voilà. Mais alors c'est quand même amusant, donc il est dans le livre de Cercas, mais lui-même est dans certains de ses livres, et il s'intéresse, notamment dans la littérature nazie en Amérique, à des biographies qui sont des biographies fictives. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, Robert Amoutio, ce lien avec la biographie, que ce soit la sienne comme celle des autres?
Je suis pas la personne la plus qualifiée pour dire ça. Il me semble que la plus grande partie de son œuvre, d'une manière ou d'une autre, est liée à sa biographie, à la biographie des individus, comme si, d'une manière ou d'une autre, le fait de vivre nous permettait d'avoir accès à une sorte d'intensité. Hein. C'est-à-dire, je vais un peu généraliser. Les personnages de Bolaño sont très nombreux et ils sont tous quasiment identifiables. C'est-à-dire, il n'a pas créé des personnages qui soient des silhouettes. Hein. Ils portent tous un nom, ils sont reconnaissables à certains traits caractéristiques.
Et certains sont effectivement des personnages inspirés de la réalité.
Évidemment, dans Nocturne du Chili, par exemple, le fameux critique est un personnage qui a existé. Dans Les Détectives Sauvages, bien sûr. Une grande partie des personnages qui traversent le récit sont des personnages qui portent leur nom ou un nom que Bolaño a inventé, mais ce sont des personnages auxquels on peut demander leur avis sur Bolaño encore.
Lions in the street, lions in the street and roaming dogs in heat. Rabid, foaming, a beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony's about to begin. The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Je voulais vous faire entendre, Robert Amoutio, quelques notes de Is Everybody In, écrit et chanté par William Burroughs, parce que Amoutio pratiquait le cut-up, enfin il disait s'inspirer un petit peu du cut-up inventé par Burroughs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la langue de Roberto Bolaño, vous qui êtes son traducteur et qui l'avez pratiqué pendant des années?
On va dire les langues de Bolaño. C'est une des caractéristiques de Bolaño. On va dire, à la différence de quelqu'un d'aussi important pour lui et pour la littérature que Borges, Borges est un auteur qui ne s'intéresse pas spécialement à l'Argentine, bien qu'il soit profondément argentin. Bolaño, lui, il a toujours revendiqué son statut de latino-américain. Et si on prend le texte des Détectives Sauvages dont on parlait à l'instant, pour un traducteur français, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Parce qu'il fait intervenir des personnages qui sont des Péruviens, des Équatoriens, des Argentins, des Mexicains. Et les lecteurs latino-américains reconnaissent au vocabulaire, à la syntaxe, à certains types d'intonation, reconnaissent l'étrangeté de la langue. C'est une langue qui n'est pas transparente pour les Espagnols de la péninsule ibérique.
Mais elle est très diverse d'un roman à l'autre, parce qu'entre Nocturne du Chili et ces espèces de longues phrases un peu délirantes, et 2666 avec au contraire une langue vraiment simple, très directe, il y a une palette là qui est très large.
Dans 2666, il y a plusieurs spectres.
Et en plus, il y a plusieurs spectres.
La partie de Fate, par exemple, renvoie plutôt à James Ellroy, de manière très, très, très évidente, alors que, d'autres. Alain Fitano porte, la deuxième partie, porte une autre. La langue, c'est une langue chilienne ou argentine, qui est différent, avec des interlocuteurs mexicains. Alors, voilà. Ça, c'est. Enfin, moi, j'insisterais plutôt sur le fait que ce soit des langues que Bolaño va chercher sur le terrain. Hein. Alors, stylistiquement, il y a une langue qu'on reconnaît dans Bolaño. Si vous voulez parler du souffle ou du rythme, on le reconnaît. Hein. Je pense qu'on peut trouver, quel que soit à l'intérieur le lexique, on peut reconnaître l'intonation, la démarche de Bolaño.
Vous diriez qu'il est avant tout un styliste, puisqu'on sait qu'il se considérait comme un poète. Il disait « je rougis moins quand on me lit ma poésie plutôt que quand on me lit ma prose », alors que nous, on le voit absolument comme un romancier.
Alors, styliste, je ne sais pas s'il se considérait. Ce qui est sûr, c'est qu'il corrigeait son œuvre. Il n'y a pas de... Hein, ce n'est pas un écrivain du premier jet, hein. On a les brouillons. On voit bien que même dans le Troisième Reich, qui est une œuvre posthume, il était en train de la corriger. Hein. Il n'avait pas d'aisance. Alors, peut-être pas Flaubert, mais c'est quelqu'un pour qui le style avait de l'importance, oui.
Robert Amoutio, vous restez avec nous. Nous allons être rejoints dans cette seconde partie de la Compagnie des auteurs par l'universitaire Raphaël Estève, qui avait organisé en son temps avec Karine Benmiloud un colloque intitulé « Les astres noirs » de Roberto Bolaño.
La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais avant cela, comme chaque jour dans cette émission, c'est le moment d'En Compagnie des revues. Et je vous présente Robert Amoutio, si vous ne la connaissez pas déjà, la directrice de la Revue des Deux Mondes, Valérie Toragnan.
Bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour Mathieu.
Revue des Deux Mondes qui fait sa une sur le casse-tête syrien avec une photo de Bachar el-Assad.
Et oui, depuis le début des affrontements en 2011, on a le sentiment que le conflit ne cesse de se complexifier. Et ces derniers jours encore, on a vu que la tension montait entre les deux parrains du cessez-le-feu, la Russie et les États-Unis. Et rien ne permet d'espérer qu'une solution de paix soit proche. Alors, ce numéro tente d'apporter des pistes de compréhension en prenant le recul historique nécessaire, mais aussi en pointant les agendas contradictoires et le double jeu de beaucoup des parties en présence. Comme le dit l'historien Henri Laurence dans ce numéro de la Revue des Deux Mondes, voici deux siècles que dans cette région du monde, on se pose la question de savoir si ce sont les grandes puissances qui manipulent les forces locales à leur profit ou l'inverse. Eh bien, la question est toujours d'actualité. L'écrivain Isabelle Auxerre nous plonge dans les coulisses du clan Assad au comportement mafieux. Une férocité, nous dit-elle, au service de l'instinct de survie, héritée peut-être des siècles où la communauté alaouite a été persécutée. Chez Bachar, le chef du clan, on pourrait même parler d'intelligence de la survie, tant il s'est jusqu'ici sorti de tous les périls.
Mais alors, on peut se demander, Valérie, si l'intervention de la France en Syrie avait une mission claire.
C'est la question que pose Renaud Girard. Toute intervention militaire contre un régime dictatorial, dit-il, devrait respecter trois conditions. Avoir quelqu'un pour remplacer le pouvoir que l'on renverse, améliorer concrètement la vie des populations et ne pas desservir les intérêts français. Basma Khodmani, qui est une opposante démocratique, s'inquiète, elle, qu'une fausse solution soit imposée aux Syriens. Après avoir longtemps espéré que la communauté internationale agirait pour protéger les populations du massacre, les Syriens en sont à espérer aujourd'hui qu'elle s'abstiendra au moins d'imposer un mauvais accord qu'il sera difficile de remettre en question.
Alors dans ce numéro, plusieurs articles sont également consacrés aux Kurdes, peuple méconnu et qui pourtant joue un rôle clé dans ce conflit.
Oui, c'est un peuple dont l'existence politique remonte au 7e siècle, qui est situé aux confins de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak, oublié de tous effectivement. Les Kurdes en Syrie se battent en première ligne, comme vous le savez, contre les islamistes et sont la seule force locale capable de les contenir. Mais, nous prédit le géopoliticien Gérard Chalian, quel que soit le futur régime de la Syrie, il ne voudra pas d'une zone kurde autonome. Ces Kurdes syriens, en attendant à la discipline militaire de fer, tentent une révolution communaliste dans leur région du Rojava avec des références appuyées au féminisme, à la laïcité et à l'écologie. On ne peut qu'être étonné, nous raconte l'écrivain Bruno Daniel Laurent, de surprendre des rhétoriques qui nous rappellent certains pans de notre propre histoire. Il n'est pas rare d'entendre de jeunes Kurdes évoquer la Commune de Paris ou la Révolution française et convoquer des figures aujourd'hui presque oubliées chez nous, tels l'historien Fernand Braudel ou Pierre-Joseph Proudhon.
Et puis dans ce numéro de la littérature aussi, il y en a dans la revue Des Deux Mondes avec ce grand entretien consacré à Maurice J. Dantec, disparu en juin dernier, Valérie.
Oui, effectivement, c'est un document que livre la revue Des Deux Mondes dans cette parution, les extraits du dernier entretien fleuve jamais publié qu'il a accordé un an avant sa mort à Samuel Estier. Dantec parle de science-fiction, de technologie, du progrès source de conservatisme, de New York, de la Constitution américaine, de la Révolution française, de l'athéisme et des anges. Je le cite, « Les gens ne savent plus ce que sont les anges. Ils n'y croient pas. Ils pensent que c'est une espèce de mythologie de chrétiens déjantés. Moi, ce n'est pas que j'y crois, c'est que je sais qu'ils existent. C'est tout. Point barre. »
Merci beaucoup Valérie Thoragnan. Tout cela est bien plus encore dans le numéro en vente en ce moment de la revue Des Deux Mondes. Raphaël Estève est donc maître de conférence à l'université Bordeaux 3, spécialiste de la littérature de langue espagnole. Il a notamment travaillé sur Borges et plus encore sur Bolaño et en particulier sur son roman Nocturne du Chili.
Chili, Chili. Comment as-tu pu changer autant, lui disais-je, parfois penché à ma fenêtre ouverte, regardant la lueur de Santiago dans le lointain. Que t'ont-ils fait? Les Chiliens sont-ils devenus fous? À qui est la faute? Et d'autres fois, pendant que je me déplaçais dans les couloirs du collège ou ceux du journal, je lui disais « Chili, jusqu'à quand penses-tu continuer comme ça? Vas-tu te transformer en autre chose, en un monstre que plus personne ne reconnaîtra ?» Et puis ce furent les élections et Allende les remporta. Moi, je me mis à lire les Grecs. Qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, me dis-je. Moi, je vais relire les Grecs. Je commençai par Homère, comme le veut la tradition. Je poursuivis avec Thalès de Millet, Xénophane de Colophon et Alcméon de Crotone, et ces noms d'ailés qu'il était bon. Puis on tua un général de l'armée favorable à Allende, et le Chili rétablit des relations diplomatiques avec Cuba, et le recensement national indiqua un total de 8 884 768 Chiliens. Et la télévision commença à diffuser le feuilleton télévisé « Le droit de naître », et moi je lus « Tirté de Sparte », et « Archiloque de Paros et Solon d'Athènes », et « Hipponax d'Éphèse », et Stésichore de Himère, et Sappho de Mytilène, et Théognis de Mégare, et Anacréon de Théos, et Pindare de Thèbes, un de mes favoris. Et le gouvernement nationalisa le cuivre, puis le nitrate et le fer, et Pablo Neruda reçut le prix Nobel de littérature, et Fidel Castro rendit visite au pays, et nombreux furent ceux qui pensèrent qu'il allait rester y vivre. Puis on tua l'ex-ministre de la démocratie chrétienne, Pérez Zujovic, et Enrique Lafoca publia Palomita Blanca, et moi j'en fis une bonne critique, presque un commentaire triomphal, même si dans le fond je savais que c'était un petit roman qui ne valait rien.
Bonjour Raphaël Estève.
Bonjour.
Vous voulez écouter un petit peu en longueur quand même cet extrait de Nocturne du Chili, parce que c'est vrai que c'est une langue quand même qui s'écoute sur la durée, et en particulier dans ce livre-là.
Oui, oui, il est même celui d'une phrase hypertrophiée, prétendument unique, qui ne serait clôturée qu'à la fin, que par une sentence un peu lapidaire et eschatologique. Cette tempête de merde.
Voilà, le livre se termine sur ces mots. C'est une tempête de merde.
Qui contraste avec la longueur de ce qui précède syntaxiquement, oui. Avec des morceaux de bravoure, effectivement, des litanies, des anaphores, stylistiquement très réussis, oui.
C'est un des livres qui vous intéresse le plus de Bolaño?
Alors, pour des raisons tout à fait pratiques, c'est un livre qui a été très étudié en France, car il a été au programme de l'agrégation.
Voilà, c'est donc pour ça qu'il y a eu tout un colloque et qu'en fait on trouve surtout des études sur Nocturne du Chili, qui est un des plus petits quand même.
Oui, alors ce n'était peut-être pas que pour cette raison qu'il a été mis au programme de l'agrégation, mais aussi parce que voilà, il fait partie, si on devait arbitrairement dessiner la figure de la géométrie des œuvres importantes de Bolaño, il y aurait un pentagone avec la littérature nazie, effectivement les deux premières œuvres traduites, Nocturne du Chili et Étoile d'Issy, Les Détectives Sauvages de 1666. Donc il serait quand même dans les œuvres qu'il faut retenir. Hein. Et donc effectivement, cette occasion a fait que beaucoup d'universitaires se sont penchés sur cet ouvrage où la matière abondait. Hein. La matière historique, la matière idéologique et la matière littéraire aussi, puisqu'il est question d'un critique littéraire dont la
conscience est soumise à l'examen.
Oui.
Alors c'est peut-être là où on peut reparler un petit peu, comme on l'a fait déjà en première partie avec Robert Amoutio, de cette notion de fiction biographique qui est très importante chez Roberto Bolaño.
Oui.
Comment vous voyez les choses, vous ?
Il y a plusieurs choses à en dire. J'en emprunterai certaines à un bon connaisseur de Bolaño qui s'appelle Alan Pauls, qui est un écrivain familier de vos antennes aussi, à qui est dédié l'un des essais entre parenthèses. Et il a une idée assez intéressante à ce sujet. D'abord, une idée contrastive. Il dit que ces biographies minimes, celles qu'on trouve dans la littérature nazie, c'est un goût pour l'apocryphe que Bolaño partage avec Borges, et c'est l'espèce d'envers de ces vies minuscules mais fascisantes, de ces figures hollywoodiennes des grands dictateurs mis en scène et mythifiés d'une certaine façon, même si c'est pour les dénigrer, par les auteurs du boom latino-américain, Vargas Llosa, García Márquez.
Il faut dire quand même un mot pour ne pas trop perdre tout le monde. Il faut dire un mot sur ce livre, La littérature nazie en Amérique, qui est donc effectivement une succession de biographies fictives d'écrivains qui admirent d'une manière ou d'une autre, alors soit les nazis, soit les extrêmes en général.
Oui, oui. Alors il a des réflexions assez déconcertantes, l'auteur, pour justifier en disant que la couleur idéologique n'était finalement pas si importante, qu'il aurait très bien pu faire ça sur des écrivains staliniens, mais que il fallait qu'il parle d'Amérique et la filière historique d'immigration était quand même beaucoup plus colorée du côté du fascisme, et donc il avait choisi ça de façon un peu indifférente, qui est assez exagérée bien sûr. Donc ces biographies évidemment et cette fascination pour ce qui est apocryphe, ce qui est contrefait en fait, qui constituait aussi une espèce de pôle d'opposition avec l'image d'authenticité, on va dire nationale, génuine, que proposaient ces auteurs du boom contre lesquels il s'est d'abord construit. C'est-à-dire le grand auteur péruvien, le grand auteur colombien, et par rapport à ces auteurs-là qui deviennent internationaux sur demande du fait du succès de ce que les ventes internationales de leurs livres les amènent à faire. Lui, Bolaño, naît international. Donc il n'a pas il est chilien, mais vivant au Mexique, vous l'avez très bien dit, voyage beaucoup, s'installe en Espagne. Donc il a cette internationalité d'emblée. De fait, elle est constitutive. Et donc, lui, il n'a pas d'image d'authenticité de cette Amérique. Ça peut être une Amérique inexistante et même une Amérique indésirable.
Alors Raphaël Estève, venons-en à Nocturne du Chili, que vous avez étudié en particulier pour ce colloque de 2008, c'est ça, 2008 si je ne me trompe pas, même. Ou 2006 pardon. Est-ce que vous avez choisi, pourquoi avez-vous choisi d'axer finalement votre recherche sur un écrivain qui est également présent dans Nocturne du Chili, et qui est l'écrivain allemand Junger, qui est également un personnage. Et là, on retrouve cette idée toujours de la fiction biographique. Pourquoi avoir axé sur Junger, finalement, votre étude de Nocturne du Chili ? En quoi c'est si important ?
Alors, cela m'a semblé important parce qu'il cristallisait un enjeu qui me semblait majeur pour Bolaño, qui était cette espèce de... Comment dire, de disjonction entre le mérite et la fortune. Voilà. Il y a deux étages. Alors, je commence par le premier. Hein. Cette disjonction entre le mérite moral et la fortune, hein, ce que les Grecs appelaient le praxis, c'est-à-dire ce qui était bon et connaissait un sort heureux et ce qui était mauvais, un sort funeste. Bon. Et ce n'est pas le cas parce que certains tortionnaires, certains nazis ont vécu très longtemps et en très bonne santé.
Et y compris en Amérique du Sud.
Y compris en Amérique du Sud et surtout en Amérique du Sud. C'est pour ça que ça a un sens ici. Et ceux qui ont souffert, ceux qui étaient les justes, ceux qui menaient des combats, ont parfois, voilà, été dans l'indigence la plus absolue et dans la souffrance et dans la maladie, hein, aussi. Et donc ça, c'était une première dimension, ce faste de la vie parisienne de Junger, hein, de ses hôtels de luxe, ses restaurants de luxe. Et
donc rappelons que Junger a vécu à Paris pendant
l'occupation,
la guerre. Il était officier de la Wehrmacht, voilà, et qu'effectivement, il a vécu sans doute d'assez bonnes années.
Voilà, c'est ce que consignent ces journaux parisiens, qui sont effectivement une espèce de... Voilà, d'échantillons, marqués par une espèce d'opulence. Hein, voilà. Et donc c'est une figure de contraste, puisque, et je ne parle pas encore de la valeur littéraire, hein, de Junger, mais dans le même roman, il y a une figure ascétique, hein, donc qui est dans le dénuement, là où l'opulence caractérisait Junger, qui est celle d'un peintre guatémaltèque, qui peut incarner, qui est exilé, hein, lui aussi. Et donc cette ascèse, elle incarne une forme de... Voilà. De refus d'un monde qui n'aurait pas primé la vertu ou la résistance, mais qui aurait fait que les méchants triomphaient finalement, hein, qu'il n'y avait pas cet ajustement entre la fortune et la vertu. Donc voilà pourquoi l'intérêt de la fortune, la figure de Junger, c'est le premier. Et le second, c'est l'indépendance de la valeur artistique, littéraire, vis-à-vis de la valeur morale. Et ce sont des choses qui intéressent beaucoup Bolaño, je crois.
Donc c'est la question de l'art pour l'art.
Alors, ça devient encore un peu différent ici. Oui, il y a l'art pour l'art qui peut être considéré comme un alibi, effectivement, une espèce d'écran de fumée, là où finalement des choses un peu plus prosaïques vont quand même motiver les conduites et même les productions. Et c'est vrai que Junger, malgré tout, c'est cette ambivalence qui est intéressante, parce que c'est un écrivain que Bolaño a admiré. Hein. Et donc, ça ouvrait aussi la porte vers cette fascination que Bolaño a pour le mal.
Y a aussi, dans le fait que Junger soit un personnage, bon, furtif hein, quand même,
oui,
dans Nocturne du Chili, une réflexion, dites-vous, sur le rapport à la technique de Junger. On sait que Junger a écrit un livre qui s'appelle « Le Travailleur » et dans ce livre, il prône la révolution nationale par une idéologie de la technique. Et pour vous, Raphaël Estève, la question de la technique, elle est aussi présente dans « Nocturne du Chili ».
Oui, oui. C'est un peu ancien comme texte, mais j'ai la même idée. Je la formulerai peut-être un petit peu différemment. Il y a, je crois, chez beaucoup d'écrivains latino-américains, un rapport de défiance par rapport à un certain impérialisme de la rationalité, voilà, pour le dire de façon un petit peu technique, dont la technique est un étendard, c'est-à-dire le fait de considérer le monde comme un fond disponible, hein,
à exploiter.
Donc, voilà, à exploiter, sur lequel on a la main, et donc quelque chose à disposition. Donc, avec tous ces corrélats d'utilité, d'efficacité, bon. Et on voit bien que d'abord ça a pu instruire certaines méthodologies de l'horreur, hein, certaines technicisations, industrialisations de l'horreur, et aussi parfois une absurdité ou une oppression administrative, hein, qui obéit à la même forme de rationalité. Et on voit bien comment, à l'envers de ça, ou à l'opposé de ça, se construit l'idée d'une littérature qui a pour caractéristique l'inutilité, l'inefficacité.
Et vous diriez que Bolaño, il est là-dedans, dans cette littérature de l'inutilité, de l'inefficacité?
Je crois que l'idée d'un combattant, qui est celle qu'il met souvent en avant, d'un combat se sachant perdu d'avance, hein, d'un combattant de l'impossible, quelque chose au bord de l'abîme, a quelque chose à voir avec ça, oui.
Gone. This best guests.
Une chanson de Patti Smith, Beneath the Southern Cross, excusez mon accent, qu'elle a dédiée à Bolaño lors d'un concert en Espagne. C'était en 2015, Raphaël Esteve.
Et oui, c'est vrai que par un retour magnifique d'un investissement affectif qui devait être le sien à Bolaño, je pense, c'est vrai qu'en 2010, Patti Smith a déclaré sa flamme pour Bolaño, en disant que 2666 c'était le premier chef-d'œuvre du siècle.
Alors en 2010, elle a même fait monter sur scène le fils de Roberto Bolaño.
Oui, c'est vrai.
Quand même quelque chose. Il est venu jouer de la guitare, il a joué Black Leaves avec elle.
Et on dirait que c'est un retour des choses, parce que c'est vrai qu'il y a chez Bolaño, toute cette facette underground. On a même dit que les infraréalistes, des détectives sauvages, c'était des punks, voilà, cette espèce de contre-culture qui est à l'œuvre et qui fait partie de la séduction de Bolaño, aussi du renouvellement du roman latino-américain qu'il a pu apporter, et de la réussite que constituait, si vous voulez, l'assemblage de l'érudition très encyclopédique qu'a souligné Robert Amutio, et d'une culture tout aussi vaste sur underground, quoi, si vous voulez. Southern Cross.
Donc c'est quasiment, en fait, un influenceur, on va le voir toute cette semaine, Roberto Bolaño, les gens le suivent comme un gourou ou presque, et lui-même il a été influencé. Raphaël Esteve, vous êtes spécialiste aussi de Borges, vous avez publié en 2010 un ouvrage à son sujet, c'était aux éditions Ellipse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le lien de filiation, ou pas d'ailleurs, entre Borges et Bolaño?
Bon, alors, ce que Bolaño a en plus, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Alors, évidemment, on tombe un petit peu dans l'anachronisme, parce que il se disait au temps de Borges que lui aussi était un adepte de la contre-culture ou de la sous-culture, qui à l'époque étaient des genres tout à fait institutionnels maintenant. Voilà. Mais depuis, voilà, notre présent, et avec l'anachronisme qu'on doit assumer, c'est vrai que Bolaño est plus un côté plus populaire aussi, il aime la science-fiction. Borges aimait la science-fiction, enfin, c'était pas la même, mais voilà, Philippe K. Dick, bon. Et surtout, Bolaño, il a un côté geek. Voilà, il a un côté geek, donc je réponds à l'envers à votre question avant d'y revenir. Il aime les jeux de plateau, les wargames, il écoute du heavy metal, bon, voilà.
Il sort pas beaucoup, d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui a une vie très très folle, finalement, en dehors de son écriture. Il boit pas, il fume pas.
Non, c'est sûr. Alors, ce qu'il a de Borges, en plus de cette auto-inscription, parce qu'il a toujours revendiqué Borges comme son dieu absolu, ce qui est aussi une façon de s'inscrire en faux ou de se différencier des auteurs du boom, desquels il a d'abord souhaité se démarquer. Ce qu'il a de Borges, on l'a dit tout à l'heure, c'est le goût pour l'apocryphe, l'invention de ces essais qui sont en réalité des fictions, ces fictions qui sont un petit peu des essais, cette perméabilité des genres, ce goût pour une espèce de mystère parfois un peu métaphysique et en rapport à la connaissance des choses, pour donner un exemple très simple, le surgissement un peu inexplicable de livres, par exemple, dans la deuxième partie de 2666, le livre dont beaucoup de critiques ont dit qu'il était un peu, oui, la mise en abîme du roman lui-même, qui s'appelle Le Testament géométrique, est un livre qui sort de nulle part, qu'on se rappelle les nouvelles borgésiennes où des livres comme ça apparaissent de façon un petit peu surnaturelle. Donc ce rapport à une espèce d'inconnu, cette érudition aussi un peu globale, cet encyclopédisme, sont des choses qui l'héritent de Borges, oui.
D'accord, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les liens entre Borges et Roberto Bolaño. Il nous reste à 15h54 sur France Culture à retrouver, comme chaque jour, Jacques Bonafé.
Bonjour. Sylvia Plath est née à Boston. Elle est morte à Londres, suicidée à 30 ans. Ariel et son dernier recueil datent de 1960 et Valérie Rouzeau traduit les textes, mais aussi les sentiments, les impulsions de cette poétesse majeure. Le premier texte, Rivalité, la met en scène devant son miroir. Si la lune souriait, elle te ressemblerait. Vous laissez la même drôle d'impression, de beauté et de quelque chose de mortel. L'usage de la lumière est votre grande affaire. Seulement sa bouche, à elle, se désole pour le monde, pas la tienne. Toi, tu as d'abord le don de tout changer en pierre. C'est dans un mausolée que je m'éveille. Tu es là, tu tapotes des doigts à la table de marbre, tu veux fumer, tu as la rancune tenace des femmes, un peu de leur nervosité, et tu meurs d'envie de dire quelque chose de définitif. La lune aussi humilie ses sujets, mais le jour elle est ridicule. Par contre, tes griefs, tes insatisfactions arrivent régulièrement, affectueusement, par la poste, expansifs comme l'oxyde de carbone. Il ne se passe pas un jour sans nouvelles de toi. Tu te promènes peut-être en Afrique, mais tu ne m'oublies pas. Autre portrait de Sylvia, c'est dans Tulipe. J'ai laissé, cargo de 30 ans, les choses filer, amarré obstinément à mes noms et adresses, on m'a lavé de mes attaches sentimentales. Nu sur la housse de plastique vert du chariot, j'ai vu avec effroi ma porcelaine, mon linge fin, mes livres sombrer puis disparaître, et l'eau m'a submergé. Me voilà nonne maintenant, je n'ai jamais été si pure. Je n'avais pas besoin de fleurs, je voulais seulement rester couché les paumes ouvertes, être complètement vide. C'est une telle liberté, tu n'as pas idée d'une liberté pareille. La paix ici est tellement vaste qu'elle te donne le vertige, sans rien te demander en retour, sinon une étiquette avec ton nom, des bricoles. C'est ainsi que les morts peuvent partir finalement, je les imagine, qui referment la bouche sur cette paix comme une hostie. Et d'abord, ces tulipes sont trop rouges, elles me font mal. Même dans le papier cadeau, je les ai entendues respirer. Dans leur lange blanc, comme un bébé affreux, leur rouge parle à ma blessure. Il lui correspond. Et elles sont ingénieuses, on dirait qu'elles flottent alors qu'elles pèsent de tout leur poids sur moi, avec leur langue brusque et leur couleur. Une douzaine de plombs rouges à mon cou. Évasion à Berck-Plage. C'est donc cela, la mer, cette immensité hors d'usage. Le cataplasme du soleil ne peut rien contre ma brûlure. Dans l'air fusent les couleurs électriques de sorbet puisées dans la glace par les mains gercées de filles blêmes. Pourquoi est-ce si calme que veut-on nous cacher? J'ai mes deux jambes et le sourire pour avancer. Une épaisse couche de sable étouffe les vibrations, elle s'entend sur des kilomètres et des kilomètres. Et les voix flottent, immatérielles, diminuées de moitié. Le regard vient heurter contre ces surfaces lisses.
Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui lit cette semaine des textes de Sylvia Plath, en particulier de son Ariel et autres poèmes, volume paru à titre posthume et qui a connu un grand succès au moment de sa parution, surtout d'ailleurs dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, c'était Raphaël Estève et Robert Amoutio qui nous ont accompagnés dans ce premier épisode d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivain chilien Roberto Bolaño. Je signale qu'en parallèle de notre exploration de l'œuvre de Bolaño, deux soirées de fiction lui sont consacrées sur France Culture. Vous pouvez déjà retrouver en ligne celle d'hier, adaptée d'Amuleto et de Carnet de Bal. En attendant, dimanche prochain à 21h, il y aura des extraits des Putains meurtrières, de Dernier crépuscule sur la Terre ainsi que du Retour. Et puis enfin, ce soir, on n'arrête pas de parler de Bolaño. Les critiques de l'émission La Dispute d'Arnaud Laporte parleront du spectacle de Julien Gosselin de 1666, adapté du roman du même nom. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Clément Daté. Merci à Corinne Amar, Didier Pinoane, Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, c'est encore davantage sous l'angle de ce cauchemar chilien qui a débuté après le coup d'État de 73 que nous poursuivrons notre exploration des mondes de Bolaño. Mon invité sera l'écrivain Bernardo Toro.